Ramirez Figueroa, hein, qui est à mes côtés, est un artiste qui est né au Guatemala et qui a vécu quelques années au Guatemala avant de fuir le pays en raison de la guerre civile et de s'installer au Canada. Donc, où il avait un statut de réfugié avec sa famille. Et en fait, les vidéos qui sont montrées dans les coursives de la nef prennent un petit peu ce contexte politique assez dur comme point de départ dans une volonté de finalement épuiser ce sujet en fait. Quand on vous en parle, hein, je laisserai évidemment s'exprimer tout à l'heure, mais il parle de ce cycle hein, de performance filmée hein, dans lequel on le voit lui performer comme d'une tentative de tourner la page en fait, de passer à autre chose dans son histoire. Je vais juste vous dire peut-être quelques mots sur la formation de Narcous et puis après je pense qu'on va faire une sorte de questions-réponses pour un peu contextualiser hein, l'installation centrale hein, qui a donc été conçue spécifiquement pour l'espace de la nef et sur laquelle Narcous travaille depuis de longs mois. Narcous a été élevé dans sa toute petite enfance au Guatemala et après en fait sur la côte ouest du Canada. Il a suivi une formation à la Emily Carroll University à Vancouver avant de rejoindre plus tard le programme performatif de l'Art Institute de Chicago. Et en fait il a rejoint ce programme parce que c'était tout simplement le seul programme qui proposait une spécialisation autour de la performance. En fait, lui, dans ce qu'il fait, il se décrit vraiment comme faisant des sculptures et des performances. Et comme vous avez pu constater, ces performances, il les incarne, il les habite vraiment. La performance que nous allons présenter demain soir et samedi est quelque part une exception, hein, l'exception qui confirme la règle, puisque ça, c'est une des premières fois où Narcous ne va pas lui-même être performeur dans sa propre performance. Le titre hein, de cette installation Institut pour la nef, Lignes in Tenebris, hein, donc, est un titre qu'on a volontairement choisi de garder en latin. Hein, donc, ça, en français, ça pourrait être traduit par l'inné dans les ténèbres. Il est dans l'obscurité et il fait référence en fait à un personnage emblématique du rationalisme des Lumières qui est donc Carl Linné, qui lui-même se faisait appeler Linnaeus. C'est pour ça aussi qu'on a gardé la dénomination latine et c'est quelque part en fait la rencontre entre la découverte de Narcous de Bordeaux et de son contexte du contexte architectural très présent dans la ville qui est celui du XVIIIe siècle et aussi de ces ornements architecturaux qu'on voit partout dans la ville et puis après des questions qui sont plus constitutives du travail de l'artiste et qui ont trait en fait à des questions taxonomiques, à la terre aussi, et aux hommes en fait qui la cultive et qui l'exploite. En fait, chez Narcous va rattacher le conflit guatémaltèque à finalement le fait que le Guatemala a été exploité par des grands groupes et des migrants en fait, des fermiers sans terre. Et en fait, il va rattacher les origines du conflit à ces circonstances-là. Donc, je vais le laisser en fait exprimer là-dessus. Mais bon, en fait, j'ai peut-être une question pour Narcous pour commencer, qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est comment il en est venu à quelque part s'intéresser à donc Carl von Linné, hein, le botaniste suédois qui est à l'origine du système de classification de toutes les espèces connues à son époque, hein, végétales, animales et puis minérales par la suite. Et comment il en est venu à imaginer une œuvre qui évoquerait Linné et qui pourrait aussi évoquer la question de la terre, du colonialisme, du Guatemala, enfin, c'est ces espèces de collusions que j'aimerais bien qu'il nous explique.
Well, I've always asked myself why this civil war happened and why the situation in that I was born into happened, which of course is not a unique situation, but it's in many places as well. And of course, if you look at the origin of things, then you come up with many reasons. I've also adapted in my practice the sort of thinking that comes from conspiracy theory, mostly from YouTube amateur conspiracy amateurs, where they just unite different facts into one whole. So I sort of been using this as a way to think through things. So in this one was, well, to think of, who dictated who works the land and what plants were chosen to do, to be exploited for financial things. And then, of course, this comes from the Enlightenment era and sort of the European expansion of power around the world, and the way that Europe tried to find the most rational way to go ahead with this. And I'll let Pedro translate.
That's my limit.
Donc bien sûr, je vous remercie d'être ici. D'abord. Et en fait, il y a deux volets dans son approche. Il y a d'un côté le fait qu'il a toujours cherché à comprendre comment tout ça s'était produit, c'est-à-dire comment le contexte dans lequel il a grandi avait pu être ce contexte d'extrême violence et de guerre civile, tout en étant très conscient toujours que ce n'est pas une situation unique, que les contextes politiques de ce type, il en existe énormément, et que lui, il en a expérimenté un, donc toujours le questionnement de comment ça arrive. Et à côté de ça, un intérêt pour la théorie du complot, plus précisément pour certains conspirateurs sur YouTube qui utilisent YouTube en fait pour essayer, comme il le dit, de faire de plein de petits fragments un tout. Et donc c'est une esthétique qui lui plaît bien et qu'il associe à ce questionnement. Et puis à partir de là, pour ce projet précis, la question justement du territoire et plus précisément de l'agriculture, quelles plantes on va favoriser en termes d'exploitation pour des raisons économiques, et tout ça nous ramenant évidemment au rationalisme des Lumières, donc la figure de Linné qui est un peu à l'origine des mécanismes qui mènent à l'exploitation, en tout cas sur le plan agricole.